I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, la maman d'un petit garçon de 4 ans, et dans la vie, je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. J'ai destiné ma pratique aux femmes et aux enfants, en particulier dans cette période charnière autour de la grossesse, de la naissance et du postpartum, avec une spécificité, permettre au bébé de mieux téter pour mettre en place un allaitement serein en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement. Ce podcast, je l'ai imaginé pour vous offrir des témoignages variés, des expériences de famille qui ont allaité plus ou moins longtemps et avec plus ou moins de facilité. Ici, vous découvrirez l'allaitement sous toutes ses coutures. Vous pourrez aussi vous informer auprès de professionnels tout spécialisés dans le domaine qui vous apporteront lors d'épisodes experts les informations les plus justes et vous permettront de vous orienter en cas de difficulté. Mon objectif, il est très simple, offrir ces informations à toute mère, famille et tout professionnel qui souhaite se renseigner sur le sujet. Que chacun puisse faire ses choix de façon éclairée et casser les idées reçues qui circulent pour vous rendre l'allaitement plus accessible, plus facile, normal, banal même et ce qu'importe vos envies et votre projet. Ce qui aide ces informations à se diffuser pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier et qui permet à Milkshaker de continuer de s'agiter, c'est vous, par vos partages autour de vous, sur les réseaux, vos écoutes, mais aussi vos notes ou étoiles sur les plateformes d'écoute. Alors je vous serais très reconnaissant de prendre une minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Juliette est la maman de 2 enfants qu'elle aura tous les deux allaités. Et pourtant, Juliette savait à peine ce qu'était l'allaitement et que cela existait. Pour elle, nourrir son bébé, c'était au biberon. Mais sur son chemin, la vue de mères allaitant tout simplement leur bébé ont semé les graines de cette normalité qui s'est imposée à elle. Cette normalité, les seins qui se remplissent et se vident, l'un puis l'autre, sous-pesés pour savoir quel sein donner à la prochaine tétée. C'est ce qui lui aura permis de palper et de sentir cette boule de plusieurs centimètres qui est venue se loger dans son sein droit. Pour démarrer, peu d'inquiétude, alors que ce sein est nourricier et que cette masse pourrait ressembler à une boule de lait. Mais quelques mois plus tard, le diagnostic tombe. Juliette a un cancer du sein. Une mastectomie et des semaines d'angoisse plus tard, Juliette est guérie, ou plutôt en rémission, et continue son allaitement sur son sein gauche. Et pas question que la maladie lui enlève ses moments privilégiés. Ce témoignage, c'est aussi un allaitement écourté pour de mauvaises raisons, sur fond de troubles de l'oralité souvent incompris par le corps médical. Alors quand elle tombe enceinte la deuxième fois, c'est une évidence. Ce deuxième bébé sera allaité aussi et sur son sein gauche, uniquement bien sûr. L'histoire de Juliette, c'est l'histoire de ce cancer du sein qui vient jouer les troubles faits, mais c'est aussi plus généralement l'histoire d'une maman qui rencontre des difficultés à mettre en place ses allaitements, que ce soit sur un ou deux seins, parfois l'envie d'arrêter et finalement deux allaitements différents mais ô combien importants. Je vais maintenant laisser Juliette vous raconter son histoire. Mais avant, laissez-moi vous rappeler, même si le mois d'octobre est derrière nous, de vous autopalper. C'est simple et ça sauve des vies. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Juliette, bienvenue dans Milkshaker.
Salut, merci.
Juliette, je suis ravie de t'interroger aujourd'hui. Comme je te le disais à l'instant, je t'ai écoutée dans un autre podcast il y a quelques temps et puis ton histoire m'avait vachement touchée. Donc j'avais très envie qu'elle rejoigne les témoignages de Milkshaker. Pour commencer, Juliette, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, combien tu as d'enfants et ce que tu fais dans la vie?
Alors, donc, je m'appelle Juliette, j'ai 2 enfants, un petit garçon qui a 4 ans et demi, et une petite fille qui a 10 mois.
D'accord.
Voilà. Et dans la vie, je suis photographe. Alors, photographe slash maman au foyer,
on va dire. D'accord.
Parce que, voilà, avec 2 enfants, l'activité en freelance, c'est pas toujours facile à maintenir. Donc voilà, je jongle un peu entre les deux rôles.
Ok, très bien. Quel âge ont tes enfants?
Alors, 4 ans et demi et 10 mois.
Et 10 mois, ok.
Voilà. Ouais.
Tu as allaité tes 2 enfants ou tu allaites tes 2 enfants?
Ouais, alors j'ai allaité mon petit garçon, donc mon grand, pendant 18 mois. Et là, j'allaite toujours ma fille qui a 10 mois. Donc.
Ok, très bien. Alors Juliette, avant de commencer sur ton histoire spécifiquement, je voudrais te demander, avant d'allaiter, est-ce que tu avais une image prédéfinie de ce que c'était d'allaiter, des envies particulières sur ce sujet-là? Est-ce que pour toi, c'était quelque chose que tu allais faire quoi qu'il arrive? Est-ce que cette envie ou ce besoin sont apparus tardivement? Comment ça s'est passé pour toi par rapport à l'allaitement?
Alors moi, avant d'envisager d'être maman, l'allaitement, c'est un truc que je ne connaissais pas du tout et qui faisait même pas partie, on va dire, de mes représentations mentales autour de la maternité.
D'accord.
En fait, j'avais eu assez peu de bébés autour de moi
Ok.
et les peu de bébés autour de moi avaient été biberonnés. Enfin, donc en fait, c'était le seul exemple que j'avais et je ne savais même pas en fait que l'allaitement existait. Enfin, c'est-à-dire je savais, mais ça faisait pas du tout partie
De tes
du package
représentations.
pour moi. Ouais, voilà, ouais. Donc moi je m'étais dit, enfin je m'étais même pas posé la question. Enfin, je pensais que mes enfants seraient nourris au biberon en fait. C'était une question que je me posais pas du tout.
D'accord, et alors qu'est-ce qui s'est passé?
Et en fait il y a eu deux espèces de déclics, de genre d'épiphanie. Et c'était les deux, c'est grâce en fait un peu aux réseaux sociaux. Le premier déclic, c'était une nana que je suivais sur Instagram, une fille un peu artiste, un peu mannequin, mais genre vraiment la nana hyper belle. J'adorais son univers. Et elle a eu un bébé et elle a posté des photos de son allaitement sur Instagram. Des très belles photos, vraiment, bah comme elle est mannequin, elle avait fait des trucs avec des photographes, etc. Et c'était vraiment magnifique. Et en fait, ça a mis l'allaitement dans. Ça a inscrit l'allaitement, en fait, dans mon cerveau. Je me suis dit, ah oui, tiens, en fait, ça existe, on peut allaiter. Enfin, je sais pas, il y a eu une espèce de truc comme ça. Et je trouvais ça magnifique. Voilà. Je me suis dit, mais c'est beau, en fait, c'est la nature, enfin c'est la nature, c'est comme ça que, enfin je veux dire, c'est ce qui est, je veux dire, on est fait pour ça à la base, c'est-à-dire qu'on est des animaux et les mammifères nourrissent leurs enfants comme ça. Enfin, il y a une espèce de
Et
déclic.
à ce moment-là, tu étais déjà enceinte ou c'est...
Et pas du tout,
D'accord.
pas du tout. Et après j'ai rencontré une Instagrammeuse pendant un voyage, en fait, un voyage de blog. Voilà, des destinations qui nous invitent, etc. Parce que du coup, à côté de mon métier de photographe, j'ai aussi un compte Instagram, voilà, un blog, etc. Et je suis partie à Porto avec cette fille qui était enceinte à ce moment-là. Et on s'est revus peu après son accouchement. On s'est pris un petit goûter ensemble. Et elle est venue avec son bébé qui a commencé un peu à s'agiter à un moment donné. Et en fait, de façon hyper naturelle, elle a pris son bébé et elle l'a mis au sein. Mais vraiment. Et en fait, c'est pareil, ça m'a fait. Genre, mon cerveau a explosé. Je sais pas, je me suis dit. Oh! Enfin, c'est difficile à expliquer, mais il y a eu une espèce d'autre déclic
Genre
où
une
je me suis dit,
évidence.
ouais, une évidence. Je me suis dit, mais en fait, c'est comme ça que les choses
Se passe.
doivent se passent, en fait. C'est juste, c'est normal, c'est naturel. Enfin, voilà. Et donc, un peu après, je suis tombée enceinte et là, je me suis dit, bah, en fait, je veux vivre ça, en fait, je veux vivre ce lien hyper naturel, hyper fusionnel avec mon enfant. Sachant qu'en disant ça, je veux pas du tout juger les mamans qui font le choix du biberon
Bien entendu. Mais dans
ou
Milkshaker, il
voilà.
n'y a personne qui juge rien.
Voilà,
On peut y aller.
vraiment. Mais en tout cas, moi, je me suis dit, c'est mon chemin, moi. Enfin, c'est finalement, c'est ça dont j'ai envie.
Ok, très bien.
Voilà. Donc à partir de là, j'ai lu un peu des bouquins, de la Leccelli. Je vais commencer un petit peu à me renseigner avant d'accoucher pour me sentir prête le jour J.
Tu sentais que tu avais besoin de te renseigner? Est-ce que tu percevais que c'était un sujet un peu délicat et que bah, ça pourrait... Enfin, parce que là, du coup, tu avais des images en tête de choses très simples et naturelles, où on peut avoir la sensation que ça se passe facilement. Est-ce que tu avais conscience que ça pouvait aussi ne pas être super simple ou non, tu es partie avec cette image de... En fait, ça va très bien se passer.
Bah, en fait, je me suis dit, bon, je vais quand même me renseigner parce que j'ai ces deux modèles, entre guillemets, mais j'y connais tellement rien, je pars tellement d'une connaissance zéro du truc que je vais quand même, moi je suis assez scolaire, je vais quand même un peu me renseigner, quoi. Et donc, en me renseignant, j'ai vu qu'effectivement, ça pouvait être plus compliqué que ce qu'on imaginait. Même si, en fait, quand on lit le bouquin de la Leche League, ils sont un peu... si vous avez mal, c'est que la position n'est pas bonne, il suffit de corriger la position, et puis il n'y aura plus de problème. Enfin, ils sont quand même très, très positifs, entre guillemets. Donc... je me disais, ok, ça peut être un peu compliqué, mais c'est pas insurmontable.
Ouais, donc tu es parti en disant, peut-être qu'il y aura des galères, mais ça va le faire.
Ouais,
okay.
Voilà, en gros.
Et alors, du coup, tu es enceinte, tu arrives à... tu es en train de rigoler déjà, ça n'a pas été si simple que ça.
Ah non.
Donc, tu es enceinte, tu arrives à l'accouchement.
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe une fois que tu es à la maternité, que ton bébé est arrivé? Déjà, est-ce que l'accouchement s'est bien passé dans les grandes lignes ou est-ce que ça a été un accouchement compliqué?
Pour mon fils, ça a été un... Alors, sur le moment, je me suis dit, ça a été. C'était pas l'accouchement dont je rêvais, mais finalement, ça s'est bien passé. Avec le recul, quand je compare avec l'accouchement de ma fille, qui a été le truc le plus simple du monde, je me rends compte que l'accouchement de mon fils avait pas été si simple.
D'accord.
Ça a duré... ça a duré 16 heures, c'était très long. Il était mal positionné, en fait. Il avait le... Enfin, voilà, il est le dos...
Il regardait les étoiles.
Voilà, regardez les étoiles, exactement. Il regarde encore les étoiles aujourd'hui, c'est marrant.
Ah, c'est vrai.
Ouais, c'est rigolo parce qu'il est, un peu atypique et je me dis, en fait, dès le départ, il nous l'a fait comprendre à sa manière. Donc, je voulais accoucher sans péridurale et en fait, au bout de 8 heures, ça n'avançait pas, donc j'ai craqué, j'ai pris la péri. Parce que pas, voilà, j'ai pas du tout regretté parce qu'après, ils sont vraiment allés essayer de le retourner.
Ouais.
C'était, je me dis sans péri, je...
Ouais, quand les bébés regardent les étoiles, c'est qu'il faut imaginer la position gynécologique et que le bébé qui normalement en position gynécologique regarde le sol pour venir défléchir sa tête après sur le bassin de maman, et en fait il regarde les étoiles, donc c'est pas la position idéale pour faire avancer un travail et
ouais,
ouvrir un col. Voilà, donc à la fin du travail, mais... souvent il y a une sage-femme qui vient si ça suffit et qui avec deux doigts vient sur une contraction tournée le bébé pour qu'il se remette dans l'axe, parce que c'est quand même nettement plus facile de sortir dans l'autre sens.
Ouais. Et du coup, c'est à cause de ça, j'avais les contractions dans le dos,
ouais, je vois très
c'était
bien.
Très très douloureux, et au bout de 8 heures, j'étais dilatée à 3.
Enfin, ouais, ouais, on a vécu le même accouchement à peu près, je vois très bien.
Ouais. Et ça n'avançait pas, enfin voilà, et j'avais des contractions non-stop, et en fait, voilà. Bon bref, donc au bout de 8 heures, j'ai pris la péri, puis après, bon, les choses... Elles sont allées à plusieurs reprises hein, pour le retourner. Il a fini par se retourner et à la fin, ils ont utilisé une petite ventouse parce que il commençait à fatiguer. Il avait, j'avais le liquide amniotique qui était teinté, etc. Enfin voilà, donc bon, un accouchement qui n'était pas qui était pas catastrophique, mais qui n'était pas non plus.
Ouais. C'était pas non plus un long fleuve tranquille, quoi.
Voilà, exactement. Et du coup, j'ai fait la tétée d'accueil qui s'est plutôt bien passée. Enfin, en même temps, je ne savais pas comment c'était censé se passer, donc je me dis, bon, bah, ça a l'air d'aller.
Ouais.
Et puis, il avait avalé du liquide. Donc, en fait, pendant les 12 premières heures de vie, il avait des espèces de nausées, il recrachait. Enfin, il n'était vraiment pas bien. Donc, il ne tétait pas. Enfin, Enfin, voilà. Et puis, à un moment, en fait, la maternité était complètement débordée. Quand je suis arrivée pour accoucher, on m'a dit, vous êtes la dernière patiente qu'on accepte. On est full. Du coup, je me suis retrouvée en plus en chambre double, parce qu'il n'y avait plus de place, donc mon mari ne pouvait pas rester. Enfin, et donc, pendant la nuit, je me dis, je pense qu'il a faim, je ne sais pas. J'étais toute seule, personne ne venait m'aider, parce qu'elles étaient débordées. Donc, j'essaye de le mettre au sein. Et je pense que je sais pas comment le prendre, je sais pas. J'ai beau avoir vu des photos, des images, lu des bouquins, en fait, j'ai jamais tenu un bébé dans mes bras et je sais pas comment il faut faire. Donc je le mets comme je peux, mais et en fait, il me fait hyper mal et j'ai des crevasses en fait directes, directement. Je saigne, etc. Donc c'est hyper douloureux. Et une puéricultrice me dit, en fait, vous n'allez pas pouvoir allaiter. Vous avez la peau trop claire, ça ne fonctionnera pas, il faut passer au biberon. Et là, je m'effondre.
Est-ce que tu la crois sur le moment, tu te dis que c'est vrai?
Bah oui, je me dis c'est son métier, Des bébés, elle en voit tous les jours. Et puis, on est dans un moment de fragilité, en fait. Ouais. On vient d'accoucher, j'étais épuisée. J'étais perdue. Enfin, je ne savais pas comment m'occuper de ce petit bébé. Donc, je la crois. Et donc, je lui donne des biberons. Et je me dis, bah tant pis. Et je suis mais dégoûtée, quoi, vraiment. C'est... Déjà, je n'ai pas eu l'accouchement dont j'avais rêvé. Je me dis, je n'ai pas non plus ça. Enfin, vraiment, c'est... Même d'en parler encore maintenant, ouais. J'étais vraiment, vraiment très triste. Et puis, la nuit d'après, je donne mes biberons. Là, puis je me dis, non, c'est pas ça que je veux. Enfin, c'est pas ça que je dois faire. Donc, je commence à éplucher des tas de forums et tout. Et je vois des témoignages de mamans qui ont vécu, en fait, la même chose que moi, des crevasses dès le départ, etc. Et qui disent, mais en fait, c'est bon, après, on a rattrapé le truc. Donc, le lendemain matin, je vois une autre puéricultrice qui est incroyable et qui me dit, j'ai cru comprendre que ça vous tenait à cœur d'allaiter et que vous étiez déçue, etc. Et je dis, bah ouais, je voulais vraiment essayer. Et puis en plus, j'ai lu des trucs. Et elle me dit, ok, on va tout reprendre à zéro, vous inquiétez pas et tout. Et là, elle m'a vachement accompagnée. Donc, elle a envoyé mon mari acheter des coquillages d'allaitement pour soulager mes crevasses. Elle m'a dit, je sais que c'est pas le top, mais on va mettre des bouts de sein. Le temps. Voilà, parce que le temps de cicatriser, quoi, parce que sinon, vraiment, les tétés, c'était horrible. Donc, on a mis des bouts de sein, et j'ai tiré mon lait pour stimuler, etc. Et on a réussi à mettre l'allaitement en place comme ça.
Parce qu'il te faisait toujours mal, en fait. C'est-à-dire que là, elle t'a aidé à te positionner, peut-être.
Et malgré ça allait mieux, du coup. Mais il y avait les crevasses qui étaient là et qu'il fallait le temps que ça...
Ah mais oui, tu avais mal. Voilà. Disons qu'un bébé qui tète très bien, même très bien sur une crevasse, c'est pas très confortable, quoi. Ouais.
Voilà. Donc voilà, j'ai eu des bouts de sein pendant, je sais pas, 2-3 semaines.
D'accord.
Un allaitement mixte aussi pendant peut-être 15 jours, mm-hmm. quand même le temps du coup que ma production... mm-hmm. Voilà, parce qu'il n'y avait pas eu de stimulation pendant plus de 24
bien
heures.
Sûr, le temps que ça se remette au diapason.
Mm-hmm. Ouais. Voilà. Et on a pu passer... un allaitement exclusif qui s'est très bien passé jusqu'à ces 4-5 mois où il a commencé à casser sa courbe.
Ah.
On a commencé la diversification, il a cassé sa courbe et là, donc on a essayé de rattraper le truc, etc. J'ai vu une consultante en lactation, j'ai tiré mon lait, j'ai fait du power pumping, enfin tout, ouais. Voilà la totale. Et en fait, jusqu'à ses 18 mois, sa courbe était vraiment pourrie. Mm-hmm. Et je comprenais pas. Mais en fait, il mangeait rien. Il tétait. Et à 18 mois, il tétait encore 10 fois par jour. Mais il mangeait pas. Les pédiatres m'ont dit, c'est à cause de votre allaitement. Il faut arrêter l'allaitement. Enfin, ça, j'ai eu ce discours-là pendant plusieurs mois.
Ouais.
Et à 18 mois, j'ai cédé, j'ai arrêté d'allaiter. Et ça n'a absolument rien résolu. Et on a découvert récemment qu'en fait, il avait un trouble de l'oralité alimentaire. Donc, c'était pas du tout lié à l'allaitement. C'est juste qu'il
Il avait un problème de succion dès le démarrage, en fait.
En fait, il avait un problème de succion. Il avait un problème. Il a globalement un problème avec la nourriture.
D'accord.
Et à la limite, l'allaitement, c'était presque ce qui sauvait le truc, puisque il avait au moins ça.
Oui.
Qui le nourrissait, quoi.
Oui, d'accord. Parce que voilà. La diversification se passait moyennement aussi, du coup.
Oui, en fait, jusqu'à 18 mois, il mangeait quasiment rien.
Ah oui, d'accord. Oui. Ouais. Donc, il n'a pas pu enclencher cette phase, là, 6-12 mois, où on découvre tous les aliments, etc.
Non.
Heureusement qu'il avait un bout d'allaitement pour compenser.
Ouais. Ouais. Mais voilà, j'ai fini par céder parce que c'était trop de responsabilité. Enfin, c'était trop sur mes épaules, en fait, le truc. Et à force d'entendre des médecins... Bon, c'est le boulot, vous dire que c'est de votre faute.
Oui, ça finit par rentrer voilà. Dans la tête.
Mmh. Ouais. Voilà, donc je l'ai sevré à 18 mois.
Ok.
Un peu à contre-cœur. Mais...
Difficilement ?
Alors, ça a été... Ouais, ça a été
j'ai essayé c'est de... pas évident de sevrer un bambin à cet âge-là. Surtout quand il a un peu... tu vois, que ça qui fonctionne...
Ouais. Bah, en fait, ça a été... j'ai fait ça de façon assez... Enfin, pas horrible, mais... J'ai essayé de réduire. Les tétés. Et en fait, ça marchait pas du tout. S'ils comprenaient pas, pourquoi il avait droit des fois, puis pas droit, enfin, voilà. Et vraiment, ça marchait pas. Et en fait, on a fait la méthode vraiment dure, c'est-à-dire que mon mari est parti avec lui une semaine chez ses parents, pardon. Et moi, je suis partie chez mes parents. Enfin, on s'est séparés, en fait, pendant une semaine.
D'accord.
Et quand on s'est retrouvés, il a essayé de téter et je lui ai dit non, non. Enfin, on lui avait expliqué avant, ouais, bien quand sûr, même. Ouais. Et voilà, et quand on s'est retrouvés, il y a eu une journée compliquée où il a voulu téter, où je lui ai dit non, 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 c'est fini, etc. Et après, il est passé à autre chose, en fait.
D'accord.
Donc ça a été, voilà, mais ça a été vrai, c'est vrai qu'on dit c'est bien de le faire progressivement, etc. Mais on n'a pas réussi, donc on a fait ça vraiment du jour au lendemain.
Et... Ok, et donc ça, bah, ça a fonctionné quand même. Ça n'a pas été facile, oui, mais ça a fonctionné.
Ouais, oui, finalement, ça a été presque plus facile pour lui que pour moi, j'ai l'impression. Lui, il a assez rapidement accepté le truc. Et...
Toi, tu as eu du mal à faire le deuil du coup de cet allaitement. Tu sentais que ce n'était pas très juste, cette histoire de te faire arrêter l'allaitement ou,
Ouais, parce que moi, je sentais que ce n'était pas ça le problème, en fait. Je me dis, mais c'est... Je me souviens d'une consultation, j'étais à l'hôpital Trousseau donc avec mon fils et une gastro-pédiatre. Et on était tous les trois dans le cabinet. Et puis elle dit, attendez, je vais passer un coup de fil à une collègue. Et puis elle appelle un autre médecin. Et elle parle comme si j'étais pas là. Et elle dit, non, non, mais de toute façon, la mère n'a plus de lait. Donc, et j'étais là, mais si, enfin, j'ai trouvé ça d'une violence. Enfin, c'était vraiment, elle parlait comme si j'étais pas là. Et puis en plus, j'avais encore du lait. Enfin, c'était pas du tout le sujet. Enfin.
Oh là là, quelle violence.
Ouais. Donc, et moi, je sentais que c'était pas ça le souci. Et puis, mais voilà, au bout d'un moment. Et puis, j'avais traversé. On en parlait du coup. Ouais. Mais je sortais d'un truc pas très fun. Donc, j'étais pas non plus au top de ma confiance en moi et de mon énergie et tout. Donc, c'est vrai que j'ai un peu capitulé en me disant, ok, je dépose les armes, là.
Je lâche. Est-ce que ton bébé s'est mieux nourri après?
Non.
Bah non. Spoiler alerte, quand il y a un truc comme ça, c'est rare que ça améliore les choses.
Ouais, pas du tout. Au début, donc, on lui a donné des biberons. Il buvait, 30 millilitres, quoi. Enfin, vraiment, il buvait trop... Enfin, je lui dis, ok. Bah, donc, les médecins disaient, non, mais c'est parce qu'il faut le temps, qu'il s'habitue, qu'il fasse... Qui fasse le deuil aussi de cet allaitement, etc. Mais bon, au final, non, ça...
Ça n'a pas changé grand-chose, quoi.
Ça n'a pas changé grand-chose. Après, il a un petit peu augmenté les quantités, mais c'était pas... Encore maintenant, c'est un tout petit poids, et voilà. Donc,
Ok. Donc, voilà. Ouais. faites-vous confiance. Si vous retenez un truc de ça, c'est faites-vous confiance, vous connaissez vos bébés. Oui, donc voilà, ma question, c'est donc au milieu de cette expérience d'allaitement et de ce postpartum, voilà, malheureusement, il t'arrive quelque chose de pas très cool, puisque tu vas avoir le diagnostic d'un cancer du sein.
Ouais.
Comment tu t'en aperçois? Qu'est-ce qui te fait signe d'alerte? Est-ce que tu fais un examen de routine? Est-ce que tu sens quelque chose, une masse dans ton sein?
Ouais, alors souvent je dis que l'allaitement m'a un peu sauvé la vie parce que effectivement, j'allaite mon fils qui tète beaucoup, donc je suis toujours un peu les seins à l'air à la maison, on va dire. Et puis donc je me régulièrement, en fait, pour savoir quel est le dernier sein qu'il a pris, etc., je sous-pèse un peu ma poitrine. Et puis un jour, donc c'était en janvier, mon fils avait, il est né en avril, donc il avait 8 mois, ouais, 9 mois. Je sous-pèse mon sein droit pour voir, et je me dis, tiens, je sens un truc. En fait, je sens une boule. Et au début, je me dis, ça doit être du lait, ça doit être peut-être le sein n'a pas été bien drainé, il n'a pas tout bu, etc. Et puis, les jours passent, et en fait, la boule ne bouge pas, que ce soit avant la tétée, après la tétée, etc., ça ne change rien.
Ouais, t'as pas de mastite non plus, t'as pas de signe inflammatoire justement d'un canal qui serait bouché ou quelque chose comme ça.
Rien, juste cette boule.
Elle est grosse?
Elle est assez grosse, ouais. Je la sens bien, elle est assez grosse. Et en fait, je laisse un petit peu traîner parce que j'ai un bébé, donc voilà quoi, on s'oublie un peu. Mmh. Et puis, j'ai quand même... en fait, quand j'étais enceinte... J'ai une connaissance, une blogueuse avec qui j'étais partie en voyage aussi, qui est décédée d'un cancer du sein. Et elle avait un petit bébé qui avait 8 mois.
Ouf.
Et donc forcément, ouais, c'est très dur. Et je l'ai appris, j'étais enceinte, moi. J'ai appris son décès, j'étais enceinte. Et ça m'avait vraiment choquée et voilà, attristée. Et donc je repense en fait, je repense à ça et je me dis bon en fait, je veux pas qu'il m'arrive la même chose, on sait jamais. Enfin,
que...
on a l'impression que ça n'arrive qu'aux autres, mais en fait, il y a bien des gens à qui ça arrive et tout le monde se dit que ça n'arrive qu'aux autres. Mais
oui,
et
puis
voilà,
ton bébé
donné,
a le même âge là en plus, donc ça doit.
Et
te
mon
faire
bébé
écho.
A le même, ouais. Ouais. Donc je me dis je vais quand même par précaution aller voir une sage-femme. Donc je pense que je vais en mars avril. Donc j'attends quand même un peu, mais je vais voir une sage-femme. Et je lui explique, et donc elle m'ausculte, et elle me dit, je pense que c'est rien, c'est sûrement lié à l'allaitement, vous inquiétez pas, mais dans le doute, je vous prescris quand même une échographie,
bah, bien
avec
sûr.
Tout ce qu'on voit, ouais, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, sous-entendu en fait, beaucoup de cancers chez les jeunes, il vaut mieux vérifier. Quoi.
Bien sûr, elle a raison, au moindre doute,
oui.
Faire une écho, qu'est-ce que c'est quoi, enfin...
Ouais, exactement. Et donc je prends, elle me conseille un centre spécialisé vraiment qui fait que ça. Et
t'étais à Paris à ce moment-là.
Ouais. Et donc j'appelle et ils me disent ok, bah le prochain créneau c'est au mois de juin.
Bah bien sûr.
Ok, bah pas de problème. Moi je, en fait, ah, oui. Comme elle m'a dit de pas m'inquiéter.
T'étais détente.
Ouais, je me dis ok, bah ça marche quoi. Et donc j'y vais en juin. Vraiment, mais le cœur léger, genre c'est un petit contrôle, quoi, histoire de me rassurer et tout.
Oui, donc il se passe 6 mois entre le moment où tu sens cette boule,
ouais,
et le moment où tu fais ton premier examen.
Ouais. J'ai eu de la chance parce que c'est... Enfin bon, ne traînez pas, vous.
Non, ne traînez pas.
J'ai eu de la chance, ouais, vraiment. Et donc j'y vais, et je suis dans la salle d'attente avec que des femmes un peu plus âgées, forcément. L'âge des mamots, etc. Mmh. C'est toutes des femmes qui ont 50, 60 ans. Et je me dis, oh là là, les pauvres, elles doivent être inquiètes. Moi, c'est rien, mais elles, voilà, elles sont à un âge où il y a plus de probabilité, peut-être, qu'il y ait un truc.
Ouais, donc t'étais hyper sereine.
Ah ouais, hyper sereine. Et puis voilà, puis je fais l'écho, et puis le médecin passe vachement de temps sur mon sein. Genre vraiment, ça dure, quoi. Je me dis, bon, dis donc. Il regarde mon autre sein, là vraiment l'autre sein c'est genre 2 minutes, puis hop, voilà. Il revient sur le sein.
Oh là là.
Je me dis, hop, ok, bon. Et il me dit, ok, il y a des micro-calcifications, il faut faire une mammo. Alors moi, je connais pas du tout les termes. Ouais. Je dis, ok, il faut que je reprenne rendez-vous. Il dit, non, on l'a fait tout de suite. Ok, je me dis, oh là. Et là, le truc commence à basculer, là, tu dis, oh merde, en fait.
Il est pas serein, le gars.
Ouais, le gars est pas serein, ça pue un peu, quoi. Donc, je fais la mammo, et puis ils me font patienter en salle d'attente, et puis ils me reçoivent, ils me montrent les clichés, ils m'expliquent, je comprends rien. Il a le regard hyper fuyant, et je lui dis, mais... Il me dit, il faut faire une biopsie. Ok, et là, j'entends biopsie, pour moi, c'est... Biopsie, c'est cancer, quoi, enfin... Et je lui dis, mais qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être un cancer, tout ça. Et en fait, il veut pas me... Enfin, il me dit, bah, je peux pas... Mes yeux sont pas des microscopes. Je peux pas vous dire.
Ouais.
Mais bon, franchement, je sens vraiment que c'est pourri. Quoi.
Ouais, il est pas du tout assez à l'aise. En tout cas, il est pas du tout rassurant.
Ouais.
Il dit pas, j'ai un petit doute, donc je préfère faire ça. C'est...
Non. Ouais. Donc là, je comprends, en fait. Je comprends en fait, que c'est vraiment pas bon, quoi. Et donc la biopsie c'est 3-4 jours plus tard, donc ils prélèvent en fait dans le sein, ils enfoncent des grosses aiguilles, ils viennent prélever
ouais, la biopsie c'est vraiment tissu, peu importe le tissu sur lequel on le fait, c'est pas que sur le sein, c'est vraiment venir prélever le tissu sur lequel on a un doute pour étudier le tissu et savoir de quelle origine il est finalement.
Ouais, donc voilà, il m'explique qu'il me pose des clips, des petits trucs métalliques en fait pour délimiter les bordures de la fameuse boule qui mesurait quand même 5 cm.
Ah ouais.
C'était un bon ouais. Et là je sais pas quel est son métier, la technicienne, enfin c'est celle qui fait les mammos, et puis elle était là pour assister le médecin qui faisait la biopsie. Ouais. Je lui dis, mais du coup, si finalement, si j'ai rien, ces petits clips métalliques, je vais les garder genre toute la vie dans mon sein. Et elle me dit, elle hésite, et elle dit, alors, ouais, si c'est rien, oui, mais vous savez, aujourd'hui, ça se guérit très bien. Enfin, donc je comprends que, oui, si c'est rien, vous les gardez, mais c'est pas rien, en fait. Enfin,
ouais.
Donc le deuxième, c'est ce que j'appelle ma deuxième annonce de cancer, c'est-à-dire que le mot est toujours pas prononcé, on sait toujours pas, mais c'est le deuxième moment où je comprends
qu'il y a
j'ai un cancer. Ouais. Voilà, et puis là, c'est la biopsie est envoyée en labo, et ma généraliste m'appelle une semaine plus tard en disant j'ai reçu les résultats, est-ce qu'on peut se voir ? Donc je lui dis, bah, je suis en week-end. En fait, ils peuvent pas faire les annonces, en fait.
Oui, bien sûr.
C'est toujours
en réel.
En réel. Et je lui dis, bah, je prends un train, là, je rentre. Elle me dit, non, bah, on peut le faire par téléphone si vous voulez. Donc je lui dis, bah oui, je viens. Et donc là, elle me dit, donc vous avez un carcinome canalaire in situ. Et blablabla. Et elle enchaîne, en fait. Mais je sais pas ce que c'est, moi, un carcinome canalaire in situ. Enfin, quand
bien sûr, tu comprends rien, quoi.
Je comprends rien, quoi. Donc je lui dis, mais. Donc je l'arrête et je lui dis, mais c'est un cancer. Et elle me dit, oui, c'est un cancer. En fait, le mot cancer, il est un peu... Je pense qu'ils n'ont pas trop le droit de le prononcer, je sais pas, pour pas traumatiser les gens, mais... Et j'ai dû vraiment, moi, poser la question pour qu'on me dise « Oui, vous avez un cancer. » Et donc ça, c'était le 1er juillet, si je dis pas de bêtises, 2019.
Ouais.
L'annonce officielle du cancer.
Tu es toujours en train d'allaiter.
Et je suis toujours en train d'allaiter. Alors, j'allaite du sein non atteint. Depuis la biopsie.
D'accord. Parce qu'on te l'a demandé suite à la biopsie ?
J'ai posé la question. Déjà, ça faisait mal. J'avais un hématome. Ouais. C'était très bizarre parce que donc, j'avais une petite cicatrice. Enfin, et j'avais du lait qui coulait par là.
Ah oui.
Ouais, c'était... Ils avaient touché, je pense, un canal.
Oui, certainement, ouais.
Et j'avais du lait qui coulait par ma cicatrice. C'était un peu... Bref. Donc j'allais être plus que d'un sein, aussi parce que ça me faisait flipper. Je me disais, mais est-ce que mon fils, il tète un sein ou il y a un cancer dedans? Enfin,
ouais, t'étais pas à l'aise. Voilà,
j'étais pas à l'aise avec l'idée. Et puis après, ils m'ont dit, non, faut arrêter de ce sein-là. Mais je continuais de l'autre sein, du coup.
Okay. Voilà.
Et donc, j'ai été suivie directement à l'Institut Curie. Donc là, j'ai enchaîné les rendez-vous et on m'a programmé une mastectomie totale du sein droit, du coup, pour 3 semaines après le diagnostic. Donc c'était le 23 juillet, je crois. Je me faisais opérer
D'accord.
du sein. Donc voilà, mastectomie totale. Analyse du sein, voilà, et analyse du ganglion sentinelle pour vérifier si le cancer s'était pas propagé.
Bien sûr.
Ce qui n'était pas le cas. Donc ça, c'était super cool et ce qui m'a évité tout traitement,
chimio et tout ça.
Ouais. Mm-hmm. Voilà. Donc j'ai pas eu de chimio, j'ai pas eu de radiothérapie, et j'ai pas eu d'hormonothérapie. Voilà. Je n'ai eu dans mon malheur, je n'ai eu que la mastectomie.
Ouais, total.
Ce que moi, je considère comme une chance, du coup.
Bah, une fois qu'on est placé de ton prisme, oui, c'est une chance, parce que ça évite en effet toute la partie chimique qui est hyper lourde, on le sait, dans les cancers. Ouais. Ces phases de chimio, là, en fait, ça impacte tout le corps, quoi. Là où la mastectomie, c'est vraiment local comme intervention.
Et en même temps, j'ai rencontré, il n'y a pas très longtemps, une femme qui a eu un cancer du sein, qui, elle, est passée par la chimio et la radiothérapie, mais qui a gardé son sein. Et elle me disait, moi, je m'estime chanceuse d'avoir... Ouais, donc, tu vois, c'est vraiment une question de...
Chacun cherche le positif là où il est dans son histoire, c'est ça qui est beau.
Bah ouais, c'est ça. Ouais.
Qu'est-ce qu'ils te disent à l'Institut Curie concernant l'allaitement ? Parce que, du coup, tu continues d'allaiter, si je comprends bien. Donc, on va avoir ce sujet de... Parce qu'il y a certaines... tumeurs du sein qui sont, on dit, hormonodépendantes. Est-ce qu'on te dit que l'allaitement peut impacter là-dessus ? Est-ce qu'on te préconise quelque chose ? Est-ce qu'on te dit, bon, ce type de tumeur, vous pouvez continuer d'allaiter de l'autre côté, il n'y a pas de souci ? Est-ce que, tu vois, le sujet vient sur la table ?
Je pose la question, forcément. Alors, je sens que c'est pas des pros du sujet, hein, clairement.
Ouais.
Je pense qu'ils sont pas confrontés à ce cas très souvent. C'est-à-dire d'une femme en cours d'allaitement qui se découvre un cancer. Ça arrive, mais c'est pas non plus le cas de figure le plus courant. Et on me dit que ce type de cancer n'est pas hormonodépendant, etc. Enfin, en gros, c'est un cancer un peu au stade zéro, enfin, et il n'y a pas de traitement, etc. Donc en gros, je peux continuer l'allaitement.
D'accord.
Voilà. On me dit juste, par contre, si vous avez un projet de deuxième bébé, il faut attendre 3 ans.
D'accord, rapport à la grossesse, voilà. Surtout, j'imagine.
Ouais, voilà, ouais.
Ok. Voilà.
Mais pas de contre-indication pour l'allaitement, juste une pause. J'ai dû faire une pause d'une semaine.
Oui, par rapport à l'opération.
Parce qu'on m'avait injecté des trucs radioactifs pour... le ganglion sentinelle, etc. Donc, pour être sûr que tous les produits étaient bien éliminés.
D'accord.
On m'a dit une semaine, franchement, je ne sais pas. Je pense qu'ils ont dit une semaine pour être sûr, mais en vrai, ils ne sont pas tellement intéressés au sujet, quoi.
D'accord. Toi, de ton côté, à ce moment-là, tu as envie de continuer ton allaitement.
Ouais.
Voilà, il n'y a rien. Enfin, une fois que tu n'allaites plus sur ce sein-là, pour toi, c'est logique de continuer. Tu ne te dis pas, oh là là, est-ce que c'est bien ou pas bien?
En fait, je me dis, je veux pas que la maladie me prenne ce truc-là, qui est important dans ma vie. Voilà, j'adorais allaiter, c'était vraiment des moments de fusion avec mon fils, etc. Et je voulais pas, ouais, que ça m'enlève ce truc-là.
Ouais, tu t'es dit, ça coûte que coûte, ça va continuer, c'est pas ça qui viendra mettre un terme à ce projet.
Ouais. Et votre sein était totalement sain, etc. Donc, y avait pas... je savais qu'il n'y avait pas de risque. Donc,
okay.
Ouais, je voulais pas que ça me retire ce truc-là.
Du coup, 3 semaines après, tu es opérée. C'est à ce moment-là qu'ils t'injectent les trucs radioactifs dont tu parles ?
Ouais.
D'accord.
Ouais, en fait, ils retirent le sein et ils retirent ce qu'ils appellent le ganglion sentinelle, ouais. Qui est le premier ganglion de la chaîne sous le bras. Voilà, ils analysent ce ganglion. Si ce ganglion est sain, ça veut dire que le cancer n'est pas...
n'est pas diffusé.
Parti... Ouais, voilà,
ça, c'est une super nouvelle. Ouais.
Ouais. Et du coup, pour identifier ce ganglion, ils t'injectent un produit radioactif. Au moment de l'opération, je pense que ça rend le ganglion fluo,
ouais,
je sais pas.
Visible, enfin, en tout cas, ça leur permet de repérer.
Ouais. Voilà. Et donc, c'est ce produit-là qui, potentiellement... mettait un petit peu de temps à être éliminé.
Ok. T'es opéré, comment ça se passe ? C'est pas en ambulatoire, une mastectomie, t'es resté quelques temps à l'hôpital ?
Je suis restée une nuit à l'hôpital.
Une nuit, ok, express
ouais,
quand même.
Ouais, ouais. Express quand même, ça s'est extrêmement bien passé.
Ouais. Parce que ton fils, du coup, c'est la première fois qu'il est exposé au fait de ne pas pouvoir téter, lui qui tète si souvent la journée ?
Ouais. Alors oui, pour lui, ça a été très compliqué. Il a pleuré. Ma sœur était venue aider mon mari voilà, pour s'occuper de lui. Et ouais, il a énormément pleuré. Je crois qu'ils sont partis dans la nuit, promener en poussette, ouais. Etc.
Enfin, voilà. Bon, et puis, il devait sentir quand même le stress autour de toute cette affaire. Hein.
Oui. Bah oui, alors, c'était pas des moments...
Le contexte émotionnel facile, était quand même lourd, là.
Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, moi, de mon côté, j'avais pris mon tire-lait, donc je tirais mon lait quand j'avais besoin. Bah, je le jetais, du coup, mais...
Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pendant cette semaine-là, ton loulou ?
Eh ben, je pense qu'il a bu des biberons. Hein.
Ouais.
Si je me souviens bien, ouais. On avait dû acheter du lait de croissance en bouteille.
T'avais acheté du lait entre-temps, tu t'étais pas mis la mission de tirer du lait avant, etc.
Non. Non, non, je voulais pas me rajouter cette pression. Et puis voilà, il avait déjà, à l'époque, il avait 15 mois. Je me disais, bon...
Bien sûr.
Voilà, il peut boire un peu de lait le temps que ça durera.
Oui, voire même s'il boit pas de lait pendant une semaine, il s'en remettra, quoi.
Oui, bon après, sachant qu'il mangeait rien, je voulais quand même...
Ouais. Il mangeait rien aussi.
Ouais. Mais voilà, je voulais pas me rajouter un stress...
Okay.
De devoir faire des stocks pendant... Enfin, et puis je ne savais pas exactement combien de temps ils allaient me dire que je pouvais... Enfin, Ça se trouve, après l'opération, ils allaient me dire faut arrêter d'allaiter parce que en fait le cancer s'est étendu. Enfin, je savais pas trop à quelle sauce j'allais te manger.
Oui, bien sûr, parce qu'au moment où tu te fais opérer, tu sais pas que bon, que c'est terminé à ce moment-là et que voilà. Qu'il y aura pas de suite. Tu te dis qu'il y a encore des chances qu'il y ait quelque chose au niveau du ganglion sentinelle et que du coup tu passes sur des traitements plus lourds qui là pour le coup, j'imagine, auraient contre-indiqué l'allaitement.
Ouais, exactement. Donc voilà, j'étais pas sûre. Donc
combien de temps après t'as les résultats?
J'ai les résultats le 14 août, c'est marrant, c'est très mauvaise avec les dates, mais, mais pour ça, je... donc le 14 août, c'est genre 3 semaines après.
Ouais, ouais c'est court, mais c'est long à la fois, là.
Ouais, c'est 3 semaines d'attente. Ouais. Ouais. Alors, heureusement, dans ces... enfin, heureusement que j'avais mon fils, en fait, parce que bah, un enfant, ça te maintient dans, le... dans un rythme, dans de la joie aussi, parce que bah, lui, forcément, il... Enfin, on l'a un peu préservé, on lui a expliqué ce qui se passait, mais on a aussi essayé de le préserver. Donc lui, il était, bah, c'était toujours enfin, égal à lui-même. Donc ça te maintient vraiment dans un, dans la vie, en fait.
Ça te force à rester dans un, quelque chose qui avance, quoi.
Ouais. Donc, mais c'était très long, ouais, effectivement. J'ai essayé d'appeler avant en disant, mais peut-être vous avez les résultats, mais il voulait pas me les donner. Il fallait que j'attende mon rendez-vous et voilà. Et donc le 14 août. On m'annonce, la chirurgienne m'annonce que je suis guérie. Alors elle me dit, normalement on dit en rémission, mais on peut dire guérie. Nous les chirurgiens on dit guérie.
Ok. Voilà. Donc elle est rassurante.
Ouais. Très rassurante. Et voilà, et elle me dit, bah il y a juste un suivi. Voilà que je continue à faire aujourd'hui. Pendant 5 ans j'ai un suivi.
Tous les combien?
Avec, alors j'ai échographie, mammographie une fois par an.
Ouais.
Un rendez-vous à l'Institut Curie une fois par an et un rendez-vous chez le gynéco une fois par an. D'accord. Et ça s'étale, voilà. Donc en gros, tous les 6 mois, j'ai un...
Quelque chose.
J'ai un... Ouais, voilà. J'ai mammo et Curie à peu près en même temps et 6 mois après, gynéco.
D'accord.
Voilà.
Ok, donc... bon, du coup, cet allaitement se termine quelques mois après, pas du tout pour les raisons... De ce cancer du sein qui est en phase donc de rémission pour les termes officiels mais guéri de façon officieuse. Toi, ça, t'es à l'aise avec cet allaitement sur un sein? Comment ça se passe ensuite?
Non, ça, franchement ça se passe bien. Il est plus grand aussi, donc je me dis il a quand même moins besoin qu'avant. Enfin voilà, il peut compléter, même si c'est compliqué côté alimentation, mais il peut manger des yaourts, etc. Enfin voilà, je me mets moins de pression.
Ouais.
Donc quand il était bébé, et du coup ça roule très bien, ça se fait très naturellement. Ouais.
Très bien. Je te reposerai peut-être des questions plus tard sur cette histoire de troubles de l'oralité parce que c'est quand même tellement fréquent, ce sera intéressant que tu nous racontes. Mais ensuite, t'attends 3 ans, tu suis le les recommandations?
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Pas tout à fait, en fait, parce que j'ai l'annonce du diagnostic, de la guérison en août 2019. Ouais. Et je tombe enceinte j'ai accouché là en février 2022, donc je tombe enceinte en 2021. Donc en fait, j'attends pas les 3 ans, j'attends 2 ans à peu près.
Volontairement? Est-ce que tu as demandé l'avis des médecins quelque part pour te rassurer ou non?
J'ai même pas tellement demandé, non. Je sais.
T'as oublié?
Je sais pas, un peu, ouais. J'ai un peu oublié. En fait, on a cette envie de deuxième enfant qui commence à arriver. Mon suivi, il n'y a rien de spécial à signaler.
Tu dis que c'est derrière toi, quoi.
Ouais, un peu. Mmh. Ouais. Et je me dis, on va commencer. Et puis bon, on est plus tout jeune. Moi, j'ai 38 ans. Mmh. Mon mari 39, on se dit bon, faut pas trop traîner si ça prend un peu de temps et tout. Ouais. Voilà, donc on zappe un peu. Et puis je tombe enceinte. En fait, je tombe enceinte très vite, moi. par contre, je fais des fausses couches, mais du coup, donc je tombe une première fois enceinte et je fais une fausse couche. Okay. Et puis je retombe enceinte
rapidement.
Un tout petit peu après, quoi.
Ok.
Voilà. J'avais fait aussi une fausse couche avant mon fils, en fait. Voilà.
Ok.
Puis fausse couche mon fils, fausse couche ma fille. Voilà.
Ok. Et alors, comment se passe cette grossesse? J'imagine qu'elle est un peu plus surveillée.
Mais même pas tant que ça.
Ouais, tout le monde est rassuré, en fait. Hein, même les médecins, ils ont...
Ouais, pour eux, je pense que voilà, c'était un accident de parcours. Et puis...
Ouais, on passe à autre chose. Quoi.
Ouais, cool. Ouais. Donc, j'ai eu un suivi par une sage-femme.
Ok.
Vraiment, voilà. Qui était vraiment mais baba cool, en plus. Donc, c'était vraiment un suivi assez anecdotique. Et je pense que j'ai quand même fait une échographie mammaire pendant ma grossesse.
Ouais.
Parce qu'à un moment, j'ai eu un stress. Je sentais un truc. Enfin, des fois, voilà, ça m'arrive des fois.
Oui, bah, j'imagine.
J'ai un flip, ouais. J'ai refait une écho il n'y a pas très longtemps. Pareil, je sentais un truc. Et en fait, maintenant, je ne me pose plus de questions. Dès que je sens un truc, j'appelle ma sage-femme, je lui demande une ordonnance et je vais faire une écho.
Mais de façon générale, hein, si vous avez un stress et que... Et que vous n'êtes pas sûr, en fait, vraiment, une écho, c'est quand même pas énorme comme examen.
Oui.
C'est pas invasif, c'est facile à obtenir, enfin, en fonction des endroits où on est, mais quand même. Pour en avoir fait aussi, en fait, vraiment, les médecins, ils préfèrent vous voir arriver et vous dire... Enfin, moi, systématiquement, quand j'ai eu des trucs, on m'a dit, moi, je préfère que vous veniez vous rassurer pour rien, plutôt que qu'on trouve un truc qui a traîné.
Voilà. Ouais, exactement.
Donc, de façon générale, voilà, bon, vous connaissez les gestes de prévention, palpez-vous les seins tous les mois, quelques jours après vos règles pour qu'ils ne soient pas, c'est pas engorgé le mot parce que là on n'est pas dans l'allaitement, mais voilà, moins imprégné des hormones. Et allez consulter au moindre doute. En effet, maintenant des cancers, on en voit arriver assez jeunes et on va pas attendre. C'est pas une bonne idée. C'est jamais une bonne idée d'attendre sur ces trucs-là.
Oui. Donc, en fait, je pense qu'il y a la... Moi, je connais des gens qui vont pas consulter parce qu'ils ont peur de.
Ouais.
Ils ont peur d'un éventuel diagnostic, mais la peur n'évite pas le danger.
Non, enfin, loin de là.
Et en fait, il vaut mieux avoir le diagnostic tôt parce que voilà, plus vite c'est pris en charge, plus grandes sont les chances de.
Bah oui, que ça guérisse.
Que ça guérisse, quoi. Bien sûr. Moi, j'ai eu de la chance entre guillemets parce que j'avais un. Quand même ma tumeur qui faisait 5 cm et qui en fait était assez agressive.
Ouais.
Et j'ai eu de la chance que finalement, j'ai attendu 6 mois. J'ai eu de la chance que ce ne soit pas devenu invasif pendant ces 6 mois. Ça aurait pu. Et je pense que si j'avais attendu encore, par contre,
ça le serait sûrement devenu. Ouais.
Ouais.
Ok, donc là, du coup, deuxième grossesse. Bon, voilà, surveillance, mais légère. L'allaitement, tu te dis que c'est une évidence, là. Tu vas réallaiter.
Ah ouais. Ouais, mais je veux allaiter parce que j'ai adoré ça. Et je veux aussi offrir à ma fille. Je sais qu'on peut jamais élever deux enfants de la même manière, mais je veux offrir à ma fille ce que mon fils a eu. Moi, je sais que pour mon fils, je pense avec le recul que j'ai fait une petite dépression du postpartum. Je m'en suis rendu compte aussi après. Et je sais que l'allaitement, ça m'a vachement aidé à créer du lien avec mon enfant, à me sentir mère. Enfin. Ça a beaucoup aidé psychologiquement, je pense.
D'accord.
Et donc, je voulais, refaire ça avec ma fille.
Oui, bien sûr.
Et j'avais lu qu'on pouvait allaiter avec un seul sein, sans aucun souci.
Bien sûr, c'est possible. Est-ce qu'entre-temps, qu'est-ce que tu avais fait pour ce sein qui n'était plus là? Est-ce qu'il y a eu une reconstruction mammaire? Quel choix tu avais fait par rapport à ça?
Non, je n'ai pas fait de reconstruction. Et pour l'instant, je ressens pas du tout le besoin.
Ouais.
Alors, j'ai une petite poitrine. J'ai toujours une petite poitrine. Donc, j'ai pas
d'asymétrie.
J'ai pas de gros déséquilibre. Je veux dire, ça me provoque pas de gêne au niveau physique. Ouais. J'ai pas de douleur au dos, etc. Et je trouve que ça se voit pas tellement. Je m'habille un peu ample, etc. Et j'ai pas envie de ressouffrir entre guillemets, j'ai pas trop envie de retourner à l'hôpital.
Ouais.
Donc, et en fait, esthétiquement, ça me gêne pas. Donc voilà, donc j'ai pas fait de reconstruction.
Okay.
J'ai fait ce qu'ils appellent une reconstruction à plat. Ça s'appelle comme ça. Enfin, donc en fait.
C'est quoi une reconstruction à plat ?
Bah, en fait, c'est juste. C'est le nom officiel. J'ai rien fait depuis la mastectomie, mais du coup, c'est juste qu'ils ont fait un truc propre.
Ah oui, d'accord, ok.
Voilà, j'ai ma cicatrice et propre. Enfin voilà, c'est.
Ok, et toi, ça te convient comme ça et c'est très bien.
Ouais. Ouais.
Donc du coup, tu sais que tu veux enclencher ce deuxième allaitement sur un sein.
Oui. Ouais. Là, c'est marrant parce que je vais voir ma gynéco, je pense, au début de ma grossesse. Et elle me dit, oui, donc bon, bien sûr, vous n'allez pas allaiter. Et je lui dis, bah si. Et elle me dit, ah bah oui, mais oui, c'est vrai en fait. Mais vous avez raison, vous pouvez. Enfin, pour elle, dans son esprit, c'était ouais. Hyper logique que j'allaite pas. Et c'est marrant parce que je dis, bah si. Et direct, elle a dit, ah bah oui. Mais oui, bien sûr en fait. Pourquoi je dis ça? Non, mais bien sûr. Et voilà. Et en fait, je me suis dit, avec toute mon expérience, mes 18 mois d'allaitement avec mon fils, en plus, ça va être hyper facile.
Ouais.
Ça va être fluide. Ouais. Ça va être génial et tout. Erreur. Naïveté.
Fanfaronnage avant l'heure.
Exactement. Alors. Ah bah, quand t'es maman, en fait.
Il ne faut jamais fanfaronner.
Exactement.
Et surtout pas avec le sommeil.
Gagné. Ouais, ah ça oui.
Alors raconte, ouais. Ta fille arrive.
Ma fille arrive, un accouchement de rêve.
Ouais.
Très rapide. Donc j'ai les premières contractions la nuit, mais vraiment je suis là. Est-ce que c'est ça? Je sais pas. Mmh. Et genre jusqu'à 10h du mat, je suis pas sûre que je vais accoucher, quoi. Je dis à mon mari, dit, bah, je vais demander à mes parents de venir et tout. Je dis bah non, attends, parce que ça se trouve, c'est une fausse alerte. Je sais pas. Et puis d'un coup, bam, ça se lance, mais à fond la caisse, en mode non-stop, contraction. Et je lui dis, oh, il faut y aller, je vais accoucher sur le canapé. Enfin, genre, ça a switché d'un coup. On est parti à la maternité, j'arrive, je perds les os dans la salle d'attente, je hurle, mais les gens, je pense que j'ai traumatisé, mais tous les gens de la salle d'attente qui se disent, oh mon Dieu.
Toutes les femmes qui viennent à 4-5 mois de grossesse, là, pour un petit bilan, qui se disent, ouais. Oh là là, qu'est-ce qui m'attend?
Ah oui, c'est ça, c'était un truc de fou. Et j'arrive, la sage-femme, ils viennent me chercher en fauteuil roulant, salle d'accouchement et tout. Je veux la péri, je me mets à hurler et tout. Mm-hmm. Elle dit bah je vous ausculte et j'étais à 6 mm-hmm. Mais je pense que je suis passée en fait de 0 à 6
en très peu de temps,
en une heure quoi. Enfin, et elle me dit vous aviez pas un projet d'accouchement naturel et tout. Je dis franchement je m'en fous. j'avais pas d'attente particulière. Je me suis dit si j'arrive sans péri je le fais, et puis si j'arrive pas je le fais pas. Enfin voilà, zéro pression. Donc, en fait, je lui dis non, mais je veux la péri. Donc, elle court chercher l'anesthésiste. L'anesthésiste me pose la péri, mais direct. Elle me dit, je vous réausculte. Et j'étais à 10.
Wow.
Ouais, vraiment, c'était...
Express.
Express. Et puis là, je pense que c'est la péri, je sais pas. Ça s'est un peu stoppé. Mm-hmm. J'ai genre eu 2 heures de... Il se passait plus rien.
Ouais.
Et elle me dit, vous voulez pousser? Est-ce que vous êtes à 10? Je dis, non, je veux pas pousser, en fait, je le sens pas, enfin c'est pas le moment et tout. Je la laisse descendre tranquille en fait, je sais pas. Donc je l'ai laissé, j'ai laissé ma fille tranquillement faire son petit bonhomme de chemin. Et puis à un moment, je dis, je sens que ça pousse quand même là. Et elle dit, ah bah oui, elle a la tête. on va se mettre en position pour pousser. Et donc je me suis mise à genoux. J'ai accouché à genoux.
Ouais.
Et en fait j'ai poussé 3 fois.
Ouais, elle a glissé, quoi.
Ouais, elle m'a dit arrêtez de pousser, elle sort toute seule, en fait. Et elle est sortie en 4 minutes. Voilà, donc vraiment...
Génial. Rien à voir avec la première fois où il faut le tourner, machin, non, ça fait mal dans le dos, ça bosse pas. Là, ça bosse.
Ouais. Ah là, Mais c'est ma fille, elle est hyper déterminée, c'est marrant aussi. et je me dis, dès le départ, elle était genre, c'est bon, là, allez, c'est le moment, là, j'y vais. Enfin, vraiment, c'est une fonceuse et...
Elle avait déjà foncé pour l'accouchement.
Ouais. Et c'était un accouchement génial parce que je suis tombée sur une sage-femme qui était... Elle était géniale. Elle m'a donné un miroir pour que je regarde la tête en train de sortir.
Ah, génial.
Elle m'a fait toucher la tête. Enfin, des trucs que j'imaginais pas trop pour mon fils. Ou même là, tu vois, je m'étais dit, oh, je suis pas trop, c'est un peu bizarre et tout. Et en fait, c'était tellement naturel. J'étais tellement en confiance. Elle était tellement cool. que j'ai tout fait, enfin j'ai tout accueilli.
Ouais, tout était clair, tout était le bienvenu, quoi. Tout était normal.
Ouais, ouais. Donc voilà, je l'ai regardé arriver. Après, du coup, elle est sortie, on a fait du pot à pot et ils ont laissé le cordon hyper longtemps. Ils sont partis en fait. Ils m'ont dit, on va vous laisser. Dès qu'elle sera sortie, on vous laisse en fait, on s'en va. Mm. Donc ils me l'ont mis sur moi, elles sont parties. Et on est resté avec mon mari, je sais pas combien de temps, juste en pot à pot. Elles sont revenues. Mon mari a coupé le cordon, alors qu'il, pareil, ça le dégoûtait un peu dans l'idée. Et puis en fait, il l'a fait. Après, on a sorti le placenta. Elles m'ont montré le placenta. On a tout regardé. Enfin, c'était vraiment hyper naturel. Et du coup, j'ai quand même pris la péri, mais qui était très.
À peine eu le temps
d'agir. Très bien dosée, parce que. Elle a agi, je pense, pendant les 2 heures là de
de
latence. Mmh. Et par contre, j'ai vraiment senti, je l'ai vraiment senti sortir. J'ai senti le cercle de feu, tout ça. Enfin,
d'accord.
Donc c'était vraiment cool. Et puis t'étais d'accueil, qui se passe, mais je sens pas le truc hyper efficace, quoi. Mmh. Je sens la petite succion, genre bon. Et c'était un tout petit bébé, elle faisait 2,5 kg. Elle est née 3 semaines en avance.
Ouais, elle était vraiment pressée. Ouais,
ouais, ouais. Ouais. Et à la mater, ils sont un peu en stress parce que, en gros, ils m'expliquent que quand les bébés naissent en dessous de 2,5 kg, ils ont une surveillance spéciale. Mmh. Et elle est à 2,540 kg, je crois.
D'accord.
Et forcément, le lendemain, elle a perdu un peu de poids. Voilà. Mmh. Donc elle est à 2,4 kg et quelques. Donc ils nous mettent une grosse pression sur le poids. Et en fait, ma montée de lait met vachement de temps à arriver. Donc, ils me font tirer mon lait pour stimuler. Enfin, vraiment, le truc, elle a vachement de mal à téter. Elle n'arrive pas à s'accrocher. Mm-hmm. Je mets des bouts de sein. Enfin, c'est vraiment... Ça prend pas, quoi.
Tu consultes, du coup ? Tu te dis qu'il y a un truc qui va pas ?
Je me dis qu'il y a un truc qui va pas. Ils m'envoient des puères, des sages-femmes un peu censées être spécialistes en allaitement et tout, mais... les conseils sont pas... Enfin, ça fonctionne pas, quoi. Il la force un peu au sein. Enfin, vraiment, c'est pas top. Et donc, elle a des bibes.
Ouais. Parce qu'elle perd trop de poids.
Elle perd trop de poids.
Et que comme donc, elle tête pas grand-chose, là, elle a pas l'air très efficace. La montée de lait, elle perd un peu.
Exactement. Je tire mon lait, mais je tire rien. Vraiment, il y a rien qui sort, quoi. Moi, je pensais, je m'étais dit, c'est le deuxième, le corps se souvient. Mm. Ça va aller vite et tout. Que dalle.
Pas du tout, ouais.
Rien du tout, je tire mais vraiment 3 gouttes, quoi. Et donc voilà, on fait du mixte. Alors je dis qu'elle a des bibes, non, parce que je suis dans une maternité amie des bébés.
Ouais.
Et donc il me file un dalle. Ouais. Donc elle est nourrie au dalle, dalle au doigt du coup, parce que dalle au sein ça marche pas.
Au doigt, le petit tuyau et.
Ouais, voilà. Et on finit par sortir de la maternité parce qu'elle a repris du poids au bout de 5 jours.
Ouais.
C'est très long. Et là, je vais direct voir ma consultante en lactation.
Ouais, bien sûr.
Que j'adore et qui est géniale. Et qui identifie un frein de langue.
D'accord.
Et qui identifie aussi qu'en fait, elle a vachement de tension. Enfin, elle a du mal à se dérouler, en fait. Elle est très, très.
Tendue, la tête dans les épaules.
Comme une tortue, en fait. Ouais.
Donc, chez un thérapeute manuel.
Alors du coup, elle m'envoie chez elle. Alors c'est un petit cabinet de consultation d'allaitement. Il y a une ostéo qui vient.
Super.
Donc elle m'envoie chez. Je fais 3 séances d'ostéo et on coupe le frein de langue.
Ouais.
Et pendant tout ça, c'est semaine après semaine. Donc pendant 1 mois, on l'a nourrie au dalle.
Mm-hmm. Ah ouais, quand même 1 mois.
Un mois, ouais. Et c'est très long.
Ouais, j'imagine.
Parce que donc en fait, c'est en gros. Je tire mon lait toutes les 3 heures, jour et nuit.
Oui, parce qu'en plus, tu n'as qu'un sein, entre guillemets, à stimuler. Donc, du coup, c'est quand même 2 fois moins de possibilités, même si le sein va... Oui. On va plus le stimuler que s'il y en avait 2, mais ça met quand même un stress en plus.
Ouais. Donc, en gros, je lui donne le sein. Après, je tire mon lait dans la foulée pour stimuler. Donc, 8 fois par jour.
Ouais.
Pendant que je tire le lait, mon mari donne le complément au dalle. Ouais. Et en fait, ça prend une heure. Tout ça, ça prend une heure à chaque fois.
Et il faut recommencer.
Donc, c'est tout. Une fois par jour. Enfin, en gros, 8 heures, au moins 8 heures par jour. Et au bout d'un mois, j'en peux plus.
Ah oui, j'imagine.
Je suis épuisée. Ça donne rien. Enfin, le dalle, ça se... Et mon mec va reprendre le boulot.
Bah oui, bien sûr. Parce que déjà, il a un mois là, parce qu'on est en 2021.
Ouais. C'est ça.
Non, elle est née en 2022. Ouais. Donc, 2021 est passé. Ils ont un congé paternité un peu plus conséquent. Ouais.
Mais je me dis, je vais pas pouvoir, quand il sera au boulot, faire ça, en fait. C'est pas possible. Mmh. Donc, je fais un post Instagram, d'ailleurs, en disant, voilà, c'est pas du tout l'allaitement que j'avais imaginé. Et je pense que je vais arrêter. Enfin, tant pis, c'est trop... Il vaut mieux qu'elle ait une maman...
Ouais, qui va bien.
Qui va bien, que voilà, là, je me sentais ressombrée. Je me dis, je vais refaire une dépression, une postpartum. Enfin, voilà. Et... Donc je lâche prise, on passe au biberon, on arrête le dalle,
ouais.
Je lui continue à lui donner le sein, je continue à tirer mon lait mais un peu moins, et on lui donne le biberon pour que ça aille plus vite parce que le dalle c'est vraiment trop contraignant.
D'accord.
Et la, ma consultante en lactation voit mon post Instagram, me dit appelez-moi, voilà, et on se revoit, et elle me dit quelle que soit votre décision, c'est la bonne. Le biberon, pas de problème, si ça vous soulage. Enfin, vraiment, elle me déculpabilise sur tout. Et je sais pas pourquoi. Il y a une espèce de... Je sais pas si c'est le fait que je lâche prise, si c'est tout ce qu'on a mis en place, les séances d'ostéo, le frein, etc. Il y a une espèce de déclic. Et en fait, en 2 jours, je passe en allaitement exclusif.
Ah ouais.
Ouais, je sais, je... D'un coup, ma lactation, je sais pas.
T'as senti que ton sein, d'un coup, se remplissait plus, que t'avais des montées de lait et tout.
Ouais.
Tu t'es... En fait, t'as enlevé la pression qu'il y avait sur tout ça.
Je pense, ouais. On s'est fait une journée, je me souviens, j'ai dit à mon mec, je me fais une journée, vraiment, je... Tu t'en occupes, tu donnes le bib.
Ouais.
Je tire mon lait deux fois, mais enfin, vraiment, je sais pas. Et peut-être le fait aussi, ouais, de lâcher prise, de me reposer.
Ah oui, mais on sait combien le stress et la fatigue jouent sur la lactation. Le stress, c'est quand même un peu l'ennemi de la prolactine.
Ouais. Et du coup, vraiment, ça... Vraiment, ouais, je te dis, en 2-3 jours, et bah c'est...
T'étais reparti. Voilà.
Ouais.
Et elle s'est mise au sein et elle te faisait plus mal, elle prenait correctement. Et
ouais. Elle tétait correctement, elle mouillait bien ses couches, j'avais du lait, enfin ouais...
Comme si de rien n'était.
Ouais, ouais exactement.
Comme quoi.
Incroyable. Ouais.
Ok.
Et du coup, bah, depuis, bah, ça roule.
Est-ce qu'elle t'aide autant que ton fils?
Alors, moins. C'est pas du tout le même rapport. C'est assez rigolo. Elle est... Bah, mon fils, c'est quand même un enfant qui est assez anxieux, etc. Donc, je pense que l'allaitement, c'était aussi son doudou. Mmh. Ça le rassurait vachement et tout. Elle, c'est vraiment plus une fonceuse. Elle n'est pas du tout, elle est pas du tout accro au sein comme il pouvait l'être. Ouais. Donc il y a beaucoup moins de tétés de réconfort. C'est plus vraiment nourricier, quoi.
D'accord.
Ouais.
Ok. Donc du coup, ça fait 10 mois que ça roule comme ça et que tout va bien. La diversification s'est bien passée pour elle.
Elle mange. Non mais c'est incroyable. Ouais. Ça se passe. Elle ouvre la bouche, on lui met une cuillère devant la bouche, ce qu'on n'avait pas du tout connu avec mon fils.
Ouais, et là, tu te rends compte à quel point, d'ailleurs, l'alimentation est problématique pour lui quand tu la vois, elle, évoluer, c'est ça?
Exactement. En fait, c'est vrai que là, je me rends compte, comme je me suis rendu compte que mon accouchement pour mon fils n'avait pas été si génial. Enfin, en fait, voilà, en comparant, je me rends compte que oui, là, on aurait dû... On n'avait pas d'expérience, donc on se disait... Au début, on commence la diversification avec mon fils, on se dit, bah... C'est peut-être un peu trop tôt, il est peut-être pas prêt, ça l'intéresse pas trop, ça va venir, et puis il a 6 mois, puis il a 7 mois, et ouais, on se disait, bon, bah c'est pas son truc, mais ouais, là, je vois la différence, ça n'a rien à voir, et je me dis, effectivement, il y avait vraiment un gros souci, quoi.
Ouais, clairement, dès le démarrage, en fait.
Ouais. Mais ouais.
T'as un projet d'allaitement pour ta louloute, là? Tu t'envisages un temps d'allaitement?
Alors, il y a des moments où j'ai envie vraiment d'arrêter.
Ouais.
Parce qu'elle a en plus une intolérance aux protéines de lait de vache.
Ah oui, mince.
Et donc, ça fait 10 mois que je fais une éviction totale des protéines de lait de vache. Ouais. Et j'ai perdu vachement de poids. Et donc, il y a des moments où je me sens vraiment... Je me dis, mon corps va lâcher, quoi. Enfin, j'en peux plus, je suis épuisée et tout. J'arrête l'allaitement. Et en même temps, je me dis, si j'arrête de l'allaiter avec son intolérance, ça veut dire que ça va être du lait de riz en poudre. J'ai peur que ça lui file mal au bide, que ça la constipe. Enfin, ouais. Donc, je suis un peu partagée.
T'as envie d'allaiter aussi pour toi, retrouver l'alimentation que t'as envie, c'est ça?
Ouais. Alors, heureusement, là, j'ai vu une allergologue qui m'a dit qu'à partir de 10 mois, je pouvais...
Parce que j'allais te dire, là, tu rentres dans les phases où vous allez pouvoir commencer à réintroduire. En général, ça se passe bien.
Ouais. Donc là, j'ai commencé à réintroduire il y a 2-3 jours. J'attends de voir comment ça se passe. Je me dis que déjà, ça m'aiderait à poursuivre l'allaitement, de remanger.
Il y a d'autres choses qui te donnent envie d'arrêter ?
Il y a les nuits.
Ouais.
Alors, je sais qu'on dit que c'est pas lié, voilà, mais quand même, mon fils, quand j'ai arrêté, il faisait pas ses nuits à 18 mois. Il se réveillait encore 3 fois par nuit pour téter. Quand je l'ai sevré, il a fait ses nuits directement. Ouais. Donc, je sais pas si ça se passera comme ça pour ma fille ou pas, mais c'est vrai que là, je me dis, si je pouvais avoir une nuit complète,
Tu dis pas non.
Ah ouais.
Normal.
Donc ça, c'est vrai que... Après, je sais que c'est pas garanti, donc si j'arrête...
Non, c'est pas garanti. Ça... On va pas te faire miroiter un truc peut-être faux. On va pas se mentir. Il y a des femmes qui disent que ça aura aidé. Et puis, il y en a aussi qui te diront que ça n'a rien changé et que du coup, elles ont regretté d'avoir arrêté. Donc, on sait pas.
Bah ouais. Et puis, c'est vrai que le sein, c'est assez magique pour elle se rendort direct. Voilà.
Ouais.
Donc, je me dis, si j'ai plus ça et qu'elle se réveille encore... Et qu'en fait, je galère à la rendormir, ça va être encore pire. Il y a vraiment le sommeil, l'alimentation. Et voilà, principalement. Et peut-être aussi me dire qu'elle pourrait peut-être aller passer une nuit ou deux chez ses grands-parents.
Ouais.
Pour qu'avec mon mec, on puisse partir en week-end.
Ouais, envie d'un peu de relais.
Ouais.
Ok. Et elle est uniquement au sein, du coup, elle a pas du tout d'apport lacté en dehors.
Comme elle est intolérante. Alors non, du coup, juste lui donne des yaourts au lait de riz, mais. Je pense que c'est bon. Je pense pas que ça ait ça fasse des apports particuliers.
Ceux qui sont câblés pour les bébés, il me semble, ce sera pas du lait maternel, mais enfin en termes de. D'apport, ils sont câblés pour être comme des yaourts au lait de vache, enfin tu vois.
Ouais, je pense.
S'ils sont validés pour son âge, c'est bon.
Oui, c'est des trucs gammes... baby bio.
Ouais, maintenant, il y a des trucs qui sont quand même assez performants pour ces bébés qui ont des intolérances aux protéines de lait de vache.
Ouais.
Bon, si vraiment vous voulez une nuit, ça peut être. Les bébés s'adaptent bien. Hein.
Oui. Après, j'ai du mal aussi, c'est mon bébé.
Bon, il faut encore un peu de temps pour que tout ça mûrisse, quoi.
Ouais. Mais je sens que je suis plus prête à la laisser. Mon fils, ça a été vraiment... On était très, très fusionnels avec ma fille. C'est ma fille, je l'aime de tout mon cœur et tout. Mais elle a aussi un caractère qui fait que je serais plus à l'aise de la laisser un peu plus tôt que...
Ouais. Oui, puis c'est un deuxième et enfin...
Oui, voilà, oui aussi, franchement, oui.
Sûrement un peu différent une deuxième fois, plus serein.
Ouais, exactement.
Ok.
Après, si, il y a une dernière raison aussi, qui est un peu le sujet, c'est qu'en termes de suivi
c'est moins médical,
c'est un peu moins facile. Alors, j'ai fait une mammo pendant mon allaitement, c'est possible. Après, c'est juste que les clichés sont moins facilement lisibles. Et même à la palpation, l'autre jour, je sentais une petite boule, mais en fait, maintenant, c'est de la glande mammaire, etc. Enfin, pour le suivi post-cancer, c'est un peu plus compliqué.
Bien sûr.
Et donc, voilà, il y a aussi ce truc-là où je me dis, c'est vrai que le jour où j'arrête, je pourrais refaire un bilan un peu plus... un peu mieux, quoi.
Ouais, ça te rassurerait de revoir un bilan un peu plus...
Ouais, j'ai forcément... J'ai des moments de flip, de récidive, forcément. Et le fait que ce soit apparu pendant mon premier allaitement, le fait de réallaiter...
Oui, ça génère quand même une petite angoisse de se dire, et si jamais ça recommence, que ce soit pas masqué par ça.
Ouais, ouais, ouais.
Ok. Oui, que la première fois, ça t'est sauvé, mais que la deuxième fois, par contre, ça te... ça t'empêche pas de voir quelque chose.
Ouais, exactement. Ouais,
ouais. Ok. Bon, bah, tu nous raconteras l'évolution de tout ça si, si tu prends des décisions. Tu viendras nous raconter.
Ouais. Et en même temps, c'est tellement fluide et on s'est tellement battu pour cet allaitement que c'est vrai qu'après, arrêter, c'est un peu... Tu te dis, merde, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai mis en place, j'ai envie de le rentabiliser, entre guillemets, maintenant que ça roule.
Bon, là, c'est ambivalent. Hein. Il y a...
Ouais, c'est complètement.
Si on faisait
complètement.
Une fiche avec des plus et des moins, il y en aurait.
Ouais, il y aurait. Exactement.
C'est pas trop... il est urgent de ne rien faire.
Ouais, mais je pense que de toute façon, tout arrêt d'allaitement, c'est toujours un peu... Pour toute femme, c'est...
Il y a souvent un petit deuil. Bien sûr.
Ouais. Mmh.
Complètement.
Enfin, sauf quand vraiment ça se passe super mal et que c'est horrible et que c'est... Enfin...
Même comme ça, parfois, c'est difficile.
Mais oui, oui, parce qu'on a rêvé un truc. Ou...
Bien sûr. Mm. Ouais. Ça peut soulager, mais pour autant laisser des regrets. Enfin, c'est très étrange.
De la culpabilité.
Parfois aussi, ouais. Mal placé, mais culpabilité quand même.
Ouais, enfin... bah ouais.
Bon, bah écoute, tu laisses courir et puis ça va se dessiner un moment.
Oui, c'est ce que je me dis. La décision viendra peut-être... Elle-même naturellement.
Au niveau.
Ou c'est peut-être elle, c'est peut-être ma fille qui décidera.
Oui, peut-être qu'à un moment, ce sera elle qui décidera, ouais, tout à fait.
Ouais.
Parce que sinon, on n'y arrive pas, à un moment, c'est eux qui prennent le relais.
Exactement.
Au niveau boulot, du coup, tu as toujours réussi à t'organiser pour pouvoir travailler et allaiter en même temps. J'imagine que tu n'as pas eu d'organisation.
Ouais, j'ai.
À mettre en place.
Je travaille de chez moi.
Ouais.
Donc forcément, c'est plus facile.
C'est facile. Ouais.
Je me fais mon rythme, etc. Pour mon fils, à l'époque, je bossais un peu plus sur des shootings en extérieur. Donc, soit c'était sur des durées assez courtes, donc je me débrouillais. Et sur des shootings de journée, je me souviens, j'allais des fois tirer mon lait dans les toilettes en speed. Et puis, je voulais pas me trimballer de glacière, etc. Donc, je le jetais.
Ouais, tu te soulageais. Les fois où tu as dû
organiser
des choses, tu te soulageais. Et puis, en rentrant, tu donnais à t'aider.
Ouais, exactement. Et après, mon fils est allé chez la nounou, ma fille un petit peu aussi, mais elle y va plus là. Mais quand ils étaient gardés, je tirais mon lait la journée pour qu'ils aient mon lait chez la nounou.
Oui, d'accord. Qu'ils buvaient du coup au biberon ensuite, chacun.
Alors mon fils, c'est marrant, on a évolué. Ma fille au biberon, parce que pareil, de lâcher prise, c'est le deuxième. Ouais. Je me fais confiance et tout. Mon fils, j'étais hyper flippée par tout ce que j'avais lu sur les confusions, etc., etc. Donc, j'avais acheté une tasse 360. Enfin, voilà, on avait essayé plein de trucs. Mais bon, comme il avait de toute façon son trouble, il prenait pas beaucoup.
Oui, dans tous les cas, tasse 360, soft cup ou tout ce que tu veux, il mangeait pas énormément.
Non, non, non.
Ok.
Ma fille, je lui file une tétine au début. Enfin, vraiment, je me suis dit, allez, je veux que ce soit simple.
Ouais.
Je veux plus. Mon fils, j'étais vraiment, je pense que très très influencée par tout ce que j'avais vu sur les réseaux sociaux, mais trop.
Oui, d'autant qu'à cette période-là, c'était vraiment le, ça circulait beaucoup beaucoup, hein, ce type d'information. Ouais.
Ouais. Donc, vraiment pas de tétine, pas de biberon. J'étais aux couches lavables. Enfin, j'étais vraiment dans un truc un peu pas extrême. Après, chacun fait comme il veut, mais qui moi était trop. Enfin, c'était trop.
C'était trop
de pression. Ouais. Et là, je me suis un peu détachée de tout ça. J'ai arrêté de suivre les comptes qui étaient trop culpabilisants. Mmh. Et je me fais beaucoup plus confiance aussi parce que c'est ma deuxième. Voilà. Et donc voilà, j'ai...
Donc elle met des couches avec plein de merde dedans. Et...
Exactement. Non, non, mais voilà.
Elle a 5 tétines dans son lit de 5 formes différentes.
Alors elle a pris la tétine au début, puis après, très rapidement, elle n'en a plus voulu. Elle a trouvé son pouce, en fait.
Ah, bah bravo.
Donc voilà, donc elle suce son pouce. Mais c'est très bien parce que ça la calme.
Et puis ça se retrouve très facilement.
Et voilà, exactement. Les couches, j'avais gardé mes couches lavables en me disant au cas où et tout. Et puis en fait, je me suis dit, c'est quand même du boulot en plus et tout.
Oui.
Et ouais. Donc voilà, donc elle a des couches de supermarché.
Et qui font très bien l'affaire.
Et qui font très bien l'affaire, ouais. J'ai vraiment lâché prise sur tout ça. De toute façon, avec deux aussi, t'as pas la même dispo.
C'est clair. L'important, c'est de s'écouter, de faire ce qui est juste pour toi. Le reste,
exactement.
Ok, Juliette, est-ce que tu aurais un conseil que tu aimerais donner aux mamans qui nous écoutent, qui peut-être sont enceintes et vont allaiter ou qui allaitent? Ce serait quoi ton meilleur conseil?
De se faire confiance. C'est un peu bateau, mais vraiment de s'écouter. Même dans les moments où on est fatigué, on est fragilisé parce que les hormones, parce que la douleur, la fatigue, ouais, etc. C'est vraiment vous qui connaissez le mieux, vous l'avez fabriqué, vous passez 24 heures sur 24 avec lui, c'est vous qui connaissez le mieux votre enfant. Okay. Donc voilà, entourez-vous de gens bienveillants, d'une équipe médicale, enfin en tout cas sage-femme, etc., avec qui vous êtes en confiance aussi, ça c'est hyper important.
Donc on se fait confiance.
Qui ne vont pas juger vos choix.
On se fait confiance et on s'entoure.
Ouais. Okay. Voilà. Bon, c'est pas très original, mais je pense que c'est important. Ouais, c'est... Et demander de l'aide aussi, ne pas hésiter à demander de l'aide.
Ce qui est important peut-être marteler. Il n'y a pas de problème.
Ouais.
Cette expérience d'allaitement, est-ce qu'elle a eu un impact sur ta vie personnelle? Ces expériences d'allaitement. Qu'est-ce que ça a changé pour toi?
Je pense que ça m'a fait avoir une vision différente de mon corps, qui d'un coup était capable de grandes choses. Alors, du pire comme du meilleur, c'est ça qui est fou. Ouais. Hein, c'est-à-dire qu'il m'a quand même fabriqué un petit cancer un peu relou, mais en même temps, il a fabriqué deux magnifiques enfants et il les a nourris et continue à les nourrir. Donc ça m'a, je pense, réconcilié. J'étais pas fâchée avec mon corps, mais en tout cas... Ça m'a fait me sentir quand même assez puissante.
Ouais.
Ça m'a fait ressentir un grand respect pour toutes les femmes, toutes les mamans et tout. Et je me dis, mais on est vraiment... on est trop fortes. Enfin, franchement, être mère, c'est génial, mais c'est tellement dur parfois. Enfin,
ouais.
Et c'est vrai, c'est... Et je m'en rendais pas compte. J'aimais pas les gens qui disent « Non, tant que t'as pas d'enfant, tu peux pas savoir, etc. » Mais c'est vrai que ça m'a vraiment ouvert toute une fenêtre sur un monde que je connaissais pas du tout. Et ça m'a fait prendre conscience que, ouais, on était vraiment des...
Des meufs géniales.
vraiment. Ouais. Donc j'ai une vision vraiment différente, même moi par rapport à mes parents à moi, avec qui j'ai de bonnes relations, mais j'ai souvent jugé leur façon de m'avoir élevée.
Ouais.
Maintenant je comprends plein de choses aussi.
D'accord.
Ils ne faisaient que des pâtes par exemple. Je me disais, putain, quand même, ils abusent, ils ne faisaient que des pâtes à manger. Ils faisaient pas des bons. Et en fait, mon fils, je lui fais que des pâtes en fait, parce qu'il mange que ça.
Bah oui.
Donc, et en fait, je me dis, bah j'étais pareil. Enfin, je comprends beaucoup de choses sur moi aussi à travers mes enfants. Mm. En fait, je me rends compte que moi aussi, j'avais un trouble de l'oralité. Enfin, voilà, en fait, on apprend vachement.
Ça va même au-delà de l'allaitement en fait. C'est...
Ouais, c'est le fait d'être mère globalement.
Okay.
L'allaitement, ça en fait partie, mais ouais, ça m'a fait énormément comprendre énormément de choses et beaucoup grandir, ouais.
Ok.
Et allaiter, ouais, bah c'est la cerise sur le gâteau. C'est ça, moi, ça a été ma façon à moi de me sentir maman, vraiment.
Ok. Voilà. avant qu'on se quitte, j'aimerais que tu répondes pour moi à l'interview Fast Milk. L'interview
D'accord.
Fast Milk, c'est une interview à laquelle je te posais, dans laquelle je te pose 4 questions auxquelles il faut répondre fast.
Ok, voilà.
Ta tétée la plus insolite, Juliette?
Oh là là, j'en sais rien. Il y en a eu plein dans des cabines d'essayage, ouais, dans des toilettes. Il y en a eu plein, ouais.
Parfait. Le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement, ça peut être ironique ou non?
Oh là là, je dirais que c'est avec le lait qui coule par la cicatrice, c'était méga glamour, ouais.
C'était méga pas méga glamour, ouais.
Ouais, mais sinon, ouais, les fuites de lait, quand tu parles aux gens et que tu te retrouves trempé, ouais, classique.
Ta position préférée dans le Kama Sutra de l'allaitement?
Alors, avec mon fils, c'était la BN, mm-hmm, le Biological Nurturing, ça c'était vraiment sa position, et ma fille, c'est la Madone, elle veut téter que comme ça.
Ouais.
Vraiment, ouais.
Et toujours du même côté, du coup, donc elle est toujours dans la même position.
Forcément, parce que, ouais, comme j'ai qu'un sein, ouais, toujours du même côté.
Okay.
J'ai mal au bras.
T'as le bras gauche. Ouais.
J'ai le bras gauche, ouais.
Si en un mot, tu pouvais me résumer ton et tes allaitements, Juliette, ce serait quoi? Et là, tu peux me donner un mot pour chaque allaitement. Qu'est-ce que tu en retiendrais comme mot?
Fusion. Pour les... Ouais, je dirais fusion, complicité.
Ouais, un mot pour les deux.
Ouais, ouais. Okay. Fusion avec mon fils et complicité avec ma fille, allez, voilà.
Parfait. Merci Juliette d'avoir répondu à toutes mes questions.
Merci beaucoup.
De nous avoir raconté ton histoire. Et puis voilà, je pense que ça pourra aider d'autres mamans. Donc voilà, merci beaucoup de l'avoir partagé.
Merci à toi.
Si vous êtes dans le cas de Juliette, et ben voilà, entendez la positivité derrière ça, le fait que, bah, que ça peut aussi très bien se passer, que le mot cancer fait peur, mais que dans plein de cas, ça se passe très bien. Et les traitements existent aujourd'hui, en particulier sur le cancer du sein, qui est un cancer qui se traite de mieux en mieux. S'il y a un truc qu'il faut retenir, c'est vraiment dépistez-vous, autopalpez-vous, et pas que au mois d'octobre. Autopalpez-vous toute l'année, quelques jours après vos règles, venez sentir, est-ce qu'il y a quelque chose d'asymétrique, est-ce qu'il y a une raideur, est-ce qu'il y a un écoulement, est-ce que, voilà, il y a différents signes à trouver. Et si vous avez un doute, allez vous rassurer, d'accord ? Allez vous rassurer parce que le stress ne fait rien de bon dans le corps, donc autant aller se l'enlever en allant consulter. Merci beaucoup Juliette d'avoir raconté ton histoire. Je te dis
merci
à très bientôt.
À bientôt.
À tous et à toutes, à très bientôt dans Milkshaker. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, je te rappelle que tu peux t'abonner, noter sur ta plateforme d'écoute préférée et faire voyager ce podcast pour que l'information circule au maximum. Et si toi aussi ton histoire vaut le coup d'être entendue, que tu as envie de réagir à l'un des thèmes abordés dans le podcast avec ton expérience, tu as la possibilité de me laisser un vocal de maximum 5 minutes pour me raconter ton histoire ou un épisode marquant de ton allaitement. C'est très simple, tu te rends sur mon site internet milkshaker.fr, tu cliques sur le lien qui s'affiche pour témoigner et peut-être que tu t'entendras bientôt dans un épisode. Toujours sur milkshaker.fr, tu retrouveras tous les épisodes enregistrés depuis 2020. Ils sont là pour t'apporter toujours plus d'informations et de transmissions autour de l'allaitement maternel. Enfin, si tu me cherches en tant qu'ostéopathe, pour toi ou pour ton bébé, tu peux me retrouver à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, au centre IG4U que j'ai créé en 2020. Tu y trouveras aussi une équipe de thérapeutes spécialisés dans la prise en charge de la femme et de l'enfant. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site IG4U.com, IG ça s'écrit YGY, et sur Doctolib pour la prise de rendez-vous. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais d'ici là, à tous, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. Will need to die. Yeah, we course path on the wrong way.